Bonsoir. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Jacqueline Kellen, diplômée de lettres classiques, écrivain et conférencière. Je crois que vous êtes également productrice à France Culture. Oui, c'est ça, France Culture.
Bon, j'ai arrêté depuis l'an 2000, mais je suis productrice d'émissions, mais je peux revenir parce que y a pas. C'est un métier, ponctuel.
Oui. La trentaine de livres que vous avez publiés témoignent de votre incessante curiosité et de votre vaste érudition. Vous y avez abordé de nombreux thèmes, parmi lesquels on relève quand même une prédilection pour la femme, les mythes et la spiritualité. Les hommes aussi, au passage, mais peut-être plus les autres. L'ouvrage que vous nous proposez ce soir est un hymne à la liberté, je dirais. C'est la voix glorieuse de Hadwige d'Anvers amène à la solitude épanouie, à la plénitude et à l'amour. Je le qualifierais volontiers de joyeux et porteur d'espoir. C'est un livre gai, ce qui est rare de nos jours, alors il faut en profiter. Vous fréquentez depuis longtemps, dites-vous, la haute dame, comme vous l'appelez joliment, alors qu'elle a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce livre.
Oui, alors déjà, moi, je suis ravie de me retrouver dans ce beau lieu et d'être accueillie si gentiment et chaleureusement. Donc merci aussi à vous d'être là par cette belle journée. J'espère que le soleil sera aussi à l'intérieur. Et c'est vrai que Hadwige d'Anvers, on va franciser, puisque c'est Hadwig en flamand, donc Hadwige, hein, c'est le prénom Hadwige, est une figure très ensoleillée et très solaire, certes. Je l'ai rencontrée par ses poèmes, des poèmes qui ont été traduits, je ne connais pas, j'ai une amie flamande et je lui ai demandé souvent de m'aider, de me conseiller, mais moi je ne connais pas, je ne pratique pas la langue néerlandaise. Mais j'ai heureusement, dans les années 50, je crois, c'est le petit livre qu'on trouve encore, traduit par un moine, quelques poèmes d'Hadwige, moi, m'ont absolument émerveillée. Il y a 20 ans de ça, j'ai dû 15-20 ans, j'ai trouvé ces poèmes et j'étais émerveillée par non seulement la haute flamme qui s'exprime, et en même temps, donc c'est un cœur éperdu d'amour, et en même temps une poésie extrêmement raffinée, savante, tout à fait à l'époque des troubadours. Hadwige d'Anvers est une femme d'une grande culture, certainement d'origine aristocratique, de grande culture. Elle connaît non seulement le français de son temps, elle connaît le latin qu'elle écrit aussi. Elle connaît bien sûr les écritures, le Cantique des Cantiques, Bernard de Clairvaux, mais ce n'est pas sa culture, moi, qui m'a intéressée, c'est que j'ai senti, en effet, une femme magnifiquement libre, fière, prophétique, parce qu'après j'ai lu ses visions, je me suis dit, c'est une figure, une sorte de modèle qui ne demande pas des servantes, ni des imitations, mais un modèle admirable pour une femme, y compris une femme d'aujourd'hui. Elle est certes chrétienne, elle a ce bagage et cette culture chrétienne, mais de nos jours encore, bien sûr, et ça m'étonnerait qu'elle soit béatifiée ou canonisée un jour, alors que sur le plan théologique, elle est irréprochable. Je pense que sa figure de femme de défi, c'est une femme chevaleresque aussi, une femme de défi, de conquête, ce qu'elle répète tout le temps, ce qui revient sans arrêt dans sa quête, c'est conquérir l'amour, amour A majuscule. Rien que ça, conquérir l'amour. Et elle dit elle-même qu'il y a plusieurs sortes de sainteté. Il y a la sainteté d'humilité, je vais dire celle que non pas l'on connaît, mais que l'on promeut la plupart du temps au sein de la religion officielle. Il y a la sainteté de fidélité. Et puis, beaucoup plus rare, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, supérieure, mais beaucoup plus rare, il y a la sainteté de défi. Et elle se situe tout à fait dans cette sainteté des défis, et elle est tout elle est tout sauf une figure de femme soumise, repentante, dans l'ombre. C'est vraiment une femme éclatante. Donc voilà ce qui m'a attirée dans sa personnalité. Alors on ne sait rien d'elle, comme par hasard. Vous savez que de son temps, y compris où on la situe au première moitié du XIIIe siècle, mais de son temps ou même avant, des figures de femmes, pour ne parler que des femmes, comme Hildegarde de Bingen, Marie Douanier, enfin des femmes béguines ou des bénédictines, elles bénéficiaient d'une vita, c'est-à-dire d'une vie, d'une, souvent une hagiographie, pour dire voilà comme cette femme a été admirable ou ascétique ou etc. ou bonne, et on écrit son hagiographie. Et elle, il n'y a d'Edwige d'Anvers, il n'y a aucune trace historique et aucun laudateur, mais heureusement conservé étonnamment par des moines. Nous avons de nos jours, donc maintenant traduit quasiment en français, tout est quasiment traduit en français, mais nous avons des lettres spirituelles où on voit qu'elle a dirigé, elle a eu charge d'âme, elle a dirigé d'autres, dirigé c'est un grand mot parce qu'elle n'est pas directive, mais elle a guidé plutôt d'autres âmes, elle a correspondu avec des personnes dans l'Europe entière, donc c'est très intéressant de voir qu'elle n'était pas confinée dans un couvent, puisqu'elle n'est pas religieuse, mais on va en parler après sur ce statut de la béguine. Et donc nous avons des lettres, nous avons des visions, écrites en prose rythmée admirable, où elle parle de ce qu'elle a vu dans les sphères célestes et les propos de son bien-aimé, le Christ. Elle ne dit pas le Christ, elle dit toujours le bien-aimé. Et nous avons donc cette presque cinquantaine de poèmes qui ne parlent que d'amour, qui ne sont enflammés que d'amour. Parce que c'est la grande question, peut-être ce n'est plus la grande question de notre vie, mais c'est la grande question de sa vie et c'est la grande question de toute mystique, de toute femme mystique. Donc voilà, son œuvre a été conservée et un jour, par le plus grand des hasards, a été retrouvée. Ce sont des universitaires qui faisaient des recherches à la Bibliothèque royale de Bruxelles sur la poésie du Moyen Âge, la poésie en néerlandais ancien. Et ils ont trouvé un manuscrit datant du XIIIe siècle, avec des poèmes admirables. Et puis ils en ont trouvé un autre, et juste dans la marge était écrit en latin « Ad Edvigis ». Donc ça voulait dire « Edwige d'Anvers ». Et ils ont après retrouvé, ils ont essayé de faire des recherches, et c'est comme ça que plus de 6 siècles après sa mort, si on peut dater sa mort, on n'a pas de date, mais en tout cas après le XIIIe siècle, 6 siècles après, son œuvre a été redécouverte et éditée d'ailleurs d'abord, bien sûr, en flamand, au début du XXe siècle, seulement au début du XXe siècle. Donc c'est tout à fait étonnant, et là, moi, je me suis posé des questions, en effet, comment se fait-il que, alors que bien d'autres textes de mystique nous sont parvenus et ont été sans cesse commenté et transmis par les chrétiens, pour rester uniquement dans la mystique chrétienne, comment se fait-il que cette femme, qui est aussi authentiquement une mystique, une femme éperdue d'amour, comment se fait-il que son œuvre ait été à ce point bannie, ou alors était-elle sulfureuse à ce point, ou était-elle si libre qu'elle faisait peur et qu'elle pourrait donner le mauvais exemple? Moi, je pense qu'elle pouvait donner le mauvais exemple pour beaucoup de femmes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quel était le statut un peu ambigu des béguines de cette époque-là?
Oui, alors moi je ne dirais pas ambigu, je dirais, parce que c'est tout à fait affirmé et clair, mais c'est un statut totalement novateur.
C'est l'appellation qui est ambigu, leur nom.
Oui, alors là, c'est très compliqué. Je ne m'étendrai pas, je pourrais dire 2-3 choses sur pourquoi béguine. Mais ce qui est magnifiquement novateur, c'est cette attitude de ces femmes. À cette époque-là, les femmes, assez jeunes d'ailleurs, n'avaient de choix qu'entre se marier ou entrer au couvent, surtout les femmes de l'aristocratie. Se marier ou entrer au couvent. Sinon, elles faisaient commerce de leur charme, si tant est qu'elles... ou elles étaient pauvresses. Donc, soit elles étaient, pour une femme libre et fière comme Edwige, soit elle est sous la dépendance d'un époux, soit elle est sous la dépendance d'un abbé, d'un confesseur. Et donc, elle ne veut ni l'un ni l'autre, parce qu'elle se sent libre et entière. Je dis ça, bien sûr, je ne suis pas... Il n'y a pas d'écrit parlant de ce choix-là. Mais on sait, et d'autre part, ce qu'on sait, c'est que ces femmes veulent se consacrer à la vie spirituelle, veulent donner la primauté à leur âme, sans pour autant être religieuses. Elles ne veulent pas entrer au couvent, elles ne veulent pas prononcer les fameux vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, même si ce ne sont pas des vergondés ou des délurés, mais elles séparent, et ça c'est aussi profondément novateur, elles font déjà la distinction entre le spirituel et le religieux. Autrement dit, je peux mener une vie spirituelle sans pour autant dépendre d'une religion ou dépendre d'un ordre. C'est ça qu'elles... c'est étonnamment, enfin j'allais dire, c'est révolutionnaire presque. Bon. Et c'est ce statut, donc, qui est, elles ne sont pas religieuses, mais ce sont des femmes laïques, mais en même temps, ce ne sont pas des femmes laïques qui, selon les conventions du temps, sont mariées, puisqu'elles sont libres. Alors, soit elles sont célibataires, soit elles sont veuves, mais elles ne sont pas mariées. Donc, elles sont entièrement libres, c'est un mouvement donc, de grande émancipation féminine, et elles revendiquent la primauté de la vie spirituelle, sans pour autant être dépendantes d'une religion. Donc, c'est pour ça que ça fait en effet ambigu, et on se dit, mais elles dérangent surtout. Elles dérangent parce que nous, on a toujours besoin de structures, d'étiquettes, etc. Et de plus, elles ne sont pas, puisqu'elles ne sont pas religieuses, elles ne sont pas enfermées, elles ne sont pas ermites, elles ne sont pas à l'écart de la société, non. Et d'ailleurs, les béguinages que l'on voit, même s'ils datent du XVIIe siècle, les béguinages que l'on voit, on voit qu'ils sont, on constate bien qu'ils sont dans les villes ou à proximité de la ville. Ils ne sont pas à l'écart. Donc ce sont des femmes qui se mêlent à la population, qui parlent avec les gens. Et alors, comme on n'est pas libre comme ça, comme on dirait de nos jours, je suis libre dans ma tête, mais matériellement, je dépends de tel et tel, et elles vont jusqu'au bout de leur défi. Et en effet, pour être libre, il faut aussi être totalement autonome sur le plan matériel. Et c'est-à-dire que ces femmes se subviennent à leurs propres besoins. Et soit par leur origine noble, elles ont des biens et des possessions, donc elles peuvent en vivre, et elles n'ont pas prononcé le vœu de pauvreté, soit, ce qui est le cas de la plupart, même si elles ont des biens et des propriétés, eh bien elles se rendent utiles et elles gagnent leur vie en travaillant, soit en donnant des soins aux malades ou aux personnes âgées, aux personnes qui en ont besoin, soit elles enseignent, parce que sont des femmes cultivées, elles enseignent, elles donnent des cours, soit elles font des travaux de plus de couture, donc c'est un petit peu l'image d'Épinal, si je puis dire, qu'on a vu avec la béguine qui brode, etc. Mais c'est vrai qu'elles ont été aussi très liées au travail du linge, de l'étoffe, après de la broderie, du lin, et puis le drap. Et aussi, elles copient des manuscrits. Donc, elles ne font pas ça à longueur de journée, mais elles font ça suffisamment pour être autonomes et se consacrer avant tout à une vie de méditation des Écritures, de prière, de recherche spirituelle. Et cela, non pas contre les chrétiens de leur temps, mais en étant chrétienne sans être sous la dépendance d'un religieux. Et là, bien sûr, on imagine que ces femmes tout à fait libres et admirables en même temps, dont le dessein est quand même très... leur projet de vie est quand même tout à fait honorable, puisque c'est un projet de vie spirituelle, de grande teneur. Eh bien, ces femmes, à la fois, elles paraissent bizarres pour les contemporains, les braves gens qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes ? Elles sont ni laïques, ni religieuses, ni ceci, ni cela. Hein » Et puis, elles ont paru aussi concurrencer, si on peut dire, les religieux, ou ce qu'on appelle les clercs. Ce qui est important de se rappeler, c'est que à cette époque-là, et ça a duré assez longtemps, mais cette grande époque de tous les mouvements qui a connu tellement de mouvements spirituels laïcs, les 12e, 13e siècles, eh bien, à cette époque, il est très risqué pour un laïc de prendre la parole et de témoigner d'une connaissance spirituelle. C'est-à-dire que la connaissance spirituelle, les Écritures, la prédication, tout ce qui est commentaire, donc spirituel, est le monopole strict et incontestable, et incontesté apparemment, des religieux. Et l'échelle sociale, l'échelle, c'est les moines en haut, les clercs, donc on dirait nous le clergé séculier, les clercs, hein, le clergé, et en dessous, les laïcs. Hein. C'est amusant, à notre époque, on parle de laïcité parce que les grands mouvements spirituels qui révolutionnent d'une certaine façon l'époque et qui veulent, qui contestent la hiérarchie de l'Église de Rome, qui conteste ou qui critique son luxe, sa richesse, son dogmatisme, etc., ce sont tous des mouvements laïcs, hein, qui en reviennent à la simplicité, à la pauvreté des évangiles, et qui, donc, et elle, donc, en tant que béguine, enfin, c'est béguine, ce mouvement commence à la fin du XIIe siècle, et le plus haut, l'époque d'éclosion, c'est cette première moitié du XIIIe siècle. Edwige d'Anvers est vraiment représentative de ce mouvement béguinal, mais qui n'a bien sûr, qui a eu maille à partir avec l'Église officielle. À partir du XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle, eh bien, les béguines ont été, soit par une bulle pontificale, soit par un tas de persécutions, exactions, et il y a eu pas mal de condamnations au bûcher, on a des témoignages, hélas, il y a eu beaucoup de procès et de condamnations au bûcher, eh bien, les béguines ont été purement et simplement interdite, le mouvement béguinal, par l'autorité ecclésiastique de Rome. Et elles ont été chassées donc, de leur béguinage. Et c'est un mouvement qui avait vraiment beaucoup de succès, qui touchait beaucoup de femmes. Et même les hommes aussi, on les ont imités aussi. On les appelait les bégards, mais un peu moins, un peu après. Et à partir du XIVe siècle, soit ces béguines sont purement chassées de leur lieu et persécutées, soit on leur demande, on leur propose, alors je ne sais pas si c'est avec la charité chrétienne, mais on leur propose d'intégrer ou de réintégrer le sein de l'Église catholique. Et elles continuent de s'appeler béguines, mais à partir du XIVe siècle, et même dans l'iconographie, et même de nos jours, les quelques religieuses que l'on voit, les quelques sœurs que l'on voit dans le béguinage de Bruges, parce que c'est un des plus connus, le plus touristique de Belgique, eh bien, elles peuvent s'appeler béguines, mais de fait, depuis le XVe siècle, ce sont des bénédictines la plupart du temps. Mais ce sont des religieuses. Donc, ce ne sont plus du tout, donc elles sont soumises aux vœux, elles sont cloîtrées, etc. Ce que n'étaient pas les béguines du XIIIe siècle. C'était des femmes libres, frayant avec la population, effrayant peut-être aussi la population qui ne s'y retrouve pas et qui voit des femmes tellement libres. Et donc, j'insiste sur ce thème de la parole, parce que c'est très risqué, puisque la prédication est interdite aux laïcs. En tant que laïc, vous pouvez écouter ce que disent les clercs ou les moines, vous pouvez faire des donations pour qu'ils prient pour vous, mais vous n'avez pas votre mot à dire, il n'y a pas que les femmes, vous n'avez pas votre mot à dire sur les Écritures. Je caricature à peine. Donc ça veut dire une femme, en plus, qui prend le risque de commenter les Écritures, parce qu'elle les connaît, elle est imprégnée du Cantique des Cantiques, des Psaumes, de l'Apocalypse, une femme qui se permet d'écrire, de donner des instructions spirituelles, de parler librement sur le christianisme, eh bien, elle risque le bûcher. Donc, voilà, cette figure d'âme fière est tout à fait rarissime. Oui. C'est important de ne pas savoir obéir.
C'est vrai. Le mysticisme, vous avez nous en parlé un petit peu, c'est une notion floue et très controversée. Pour Pascal, il dit que c'est une nécessité face à la défaillance de la raison. Alors sur Orange, j'en parle pas, il dit que c'est une des deux façons de désespérer, l'autre étant le scepticisme, bien sûr. Est-ce que les écrits d'Advitch vous ont-ils permis de mieux le cerner et quelle serait votre définition?
Oui, je veux dire, pour moi, c'est très clair. La mystique, c'est quelque chose de très clair. Le mysticisme, mais en effet, c'est beaucoup plus flou. Je pense qu'on dit les personnes qui disent mysticisme, c'est celles qui, en effet, n'en ont ni le désir de la mystique, ni d'expérience. Hein. Et ce n'est pas pour autant les juger ou les condamner. C'est très simple. La mystique est dans toutes les traditions, et pas simplement en religion, puisqu'il y a aussi, on peut en dire un mot, on n'est pas mystique uniquement dans les religions. Ça, c'est la grande question. Un philosophe, il y a beaucoup de grands mystiques chez les philosophes grecs. Un Plotin est un grand mystique. Et bon, et il ne s'inscrit pas du tout dans la tradition chrétienne. Un Boès, qui a écrit la fameuse Consolation de la philosophie, qui est un admirable texte mystique, même s'il connaît le christianisme, il ne se réfère pas du tout au Dieu le Père du christianisme, mais il se réfère à l'être, à l'un, etc. Bon, et sa voie d'élévation est admirable. Donc, qu'est-ce que la mystique ? La mystique, c'est le désir fou, et sans nul doute impossible, mais dans l'éthique médiévale et chevaleresque ou courtoise, ce n'est pas parce que c'est impossible qu'on va, on va renoncer. Hein ? Ça, c'est une mentalité très bourgeoise, sédentaire et contemporaine, de dire on y va parce qu'on réussit. Ce n'est pas parce qu'on va gagner quelque chose qu'on s'embarque. Non, toute la morale, la haute morale de l'être humain, c'est justement faire ses preuves, c'est s'élever, se perfectionner, découvrir, toujours reculer les frontières de la connaissance, de l'amour, de la liberté. Donc même si c'est impossible et impensable, je ne peux faire autrement que de le désirer hautement. Et donc, le désir mystique, c'est s'unir à la divinité, quels que soient les noms qu'on lui donne. Alors, pour Edwige, qui est chrétienne, ce n'est pas Dieu qui, pour elle, ne résonne pas trop. C'est un terme un peu trop usé, on dirait, ou un peu affadi, par, justement, tous les discours des religieux. Dieu, Dieu, Dieu. Oui, mais Dieu qui vous parle au cœur et peut-être au corps, eh ben Dieu devient amour ou le bien-aimé. Donc, pour Edwige, c'est s'unir au bien-aimé, et pour un Jean de la Croix aussi, mais pour d'autres, par exemple pour un Plotin, c'est aller seul vers le seul, c'est l'être, c'est l'un, c'est le divin, mais la mystique, c'est un désir d'union avec un principe supérieur qu'on peut appeler Dieu, amour, absolu, etc. C'est ça l'élan mystique, le désir mystique. Bon, le mysticisme, c'est peut-être des formes dégradées ou un peu errantes, bon, voilà. Et l'autre voie, donc il y a deux grandes voies, je dirais, en particulier dans le christianisme, il y a soit cette voie mystique qui me semble très illustrée par les femmes, et me semble-t-il c'est la voie royale pour les femmes, parce que c'est la voie de l'amour fou. Et il me semble que ce n'est pas des grandes distinctions, c'est peut-être une clarification abusive, mais il me semble que il y a quelque chose de passionné en toute femme, où j'ai l'impression, où je ressens que pour la femme met toujours l'amour, quel que soit cet amour d'ailleurs, sentimental, fleur bleue, mystique, passionnel. La femme met toujours l'amour au centre de sa vie, hein, où c'est une sorte de, ou un orient, une étoile vers laquelle elle oriente sa vie. Pour l'homme, il y a beaucoup plus l'intelligence. Ça ne veut pas dire que l'amour et l'intelligence ne peuvent pas se rencontrer. Mais la mystique est illustrée par les femmes beaucoup plus. Et alors l'autre voie est peu encouragée, à vrai dire. Je sens que la voie mystique est peu encouragée par la religion officielle. Et l'autre voie possible, c'est la voie ascétique. Reprendre des termes, des formules chrétiennes, pour faire son salut, pour se perfectionner, ou pour, je ne veux pas dire aller au paradis, c'est vraiment infantile, mais oui, pour ressusciter un jour, ou pour la divinisation, eh bien, il y a la voie ascétique. Et la voie ascétique est très différente de la voie mystique, parce que la voie ascétique, c'est mater le corps, dompter non seulement ses passions, mais ses sens, et c'est une voie de coupure. Une voie de radicalité, de coupure, donc c'est la voie des ermites, la voie des renonçants, d'où les vœux de chasteté, pauvreté, etc. De mon vivant, je me coupe, j'essaye d'éradiquer en moi tout ce qui peut être de créature charnelle, avec ses besoins, ses désirs, ses instincts, ses passions, pour être, pas pur esprit, mais tendre vers une sorte d'esprit détaché de tout ce qui est mondain, du siècle, etc. Alors que la mystique, la voie mystique ne se coupe jamais là où le mystique vive, mange, aime, danse, sont remplis de joie, et pour eux tout concourt, c'est comme la voile chimique, tout concourt et tout peut être transmuté, transformé et divinisé. Donc c'est une toute autre voie. Voilà, en gros, pour essayer de dire les choses. Donc, mais ce qui a commencé dans le christianisme, c'est la voie ascétique. Les pères du désert qui ont quitté les villes d'Égypte au 3e, 4e siècle de notre ère, c'était ça. Ils partaient dans le désert pour fuir déjà le bruit des villes et ils vivaient de presque rien. Enfin, ils jeûnaient à longueur d'année et ils affrontaient le silence, la méditation, le vent du désert. Et c'était une voie de coupure radicale pour... Donc, c'est important parce que cette voie ascétique a entraîné ce qui nous paraît, nous, il me semble encore, la seule voie de sainteté possible, c'est-à-dire pénitence, mortification, jeûne et privation, expiation, je peux continuer, contrition, etc. Ce qui d'ailleurs a fait fuir beaucoup de fidèles de la religion. Parce que c'est encore cela, comme si la sainteté, alors la sainteté ne s'obtient pas en faisant n'importe quoi, mais il n'y a pas que la voie de mortification et de pénitence. Les mystiques ne parlent pas du tout de cette voie. C'est pour ça que je parlais de cette, j'insistais moi sur cette voie glorieuse. La joie, la beauté, l'amour, la louange, la gratitude, ce sont l'amitié. Ce sont des voies, en effet, aussi de célébration de la vie et de célébration de Dieu.
Donc, Edwige a choisi, pour elle, c'est la passion, c'est l'amour fou.
Je ne sais pas si on choisit, moi je pense toujours que c'est l'amour qui nous choisit, hein, d'abord.
Alors, hein, elle a été choisie.
Oui, j'espère.
Et ses écrits ne sont pas dénués d'érotisme, quand même un petit peu. Elle parle de baisers pénétrants, de total embrassement. Après, un peu plus loin, je vois « Quelle merveilleuse suavité, c'est pour des amants d'habiter l'un dans l'autre ». Donc, est-ce que c'est ça qui vous l'a rendue encore plus, c'est-à-dire plus humaine et plus exceptionnellement humaine?
Je ne sais pas si c'est plus exceptionnellement humain ou divin, ou le spirituel, c'est étonnant. Le spirituel serait nécessairement détaché du corps. Enfin, ça, c'est les questions qu'elle nous pose, et qu'elle pose à toutes les religions. Moi, il me semble que toutes les religions, ou presque, ont voulu bannir, faire oublier, sinon éradiquer, l'amour qu'on appelle éros, c'est-à-dire ce désir, cet élan qui porte un être vers un autre. C'est une expérience humaine fondamentale et magnifique, même si après l'histoire est triste, etc. C'est l'expérience amoureuse, quelle qu'elle soit, est une expérience où l'être se sent le plus proche de l'absolu. Hein ? Il me semble qu'on est beaucoup plus proche, on se ressent beaucoup plus proche de l'absolu dans ces moments d'amour, que, quel qu'il soit, que, enfin d'amour partagé, pas quel qu'il soit, d'amour partagé, que dans des moments d'intense réflexion, si haute soit notre réflexion. Alors ce qui est troublant, c'est pas lié simplement à Edwige, même si je vais quand même préciser ce qui la singularise vraiment, ce qui est troublant chez les mystiques, c'est pour ça que l'Église, la religion officielle n'a pas trop envie de trop développer cette voie-là ou de l'indiquer comme voie privilégiée ou voie royale, c'est parce que en effet la mystique, la femme amoureuse, eh bien elle n'est pas un pur esprit, elle n'est pas qu'un cerveau, ce n'est pas du fantasme. Et vous savez, vous avez Pascal, le philosophe Pascal disait il y a Dieu sensible au cœur, quand il parlait le cœur a ses raisons, que la raison, etc. Donc Dieu sensible au cœur, et c'est la mystique par rapport à Dieu sensible à la raison. Alors on peut aller jusqu'à un certain point et après c'est la foi. Bon, mais les mystiques ont l'air de prouver, de témoigner plutôt que c'est aussi un Dieu sensible au corps. Et là, c'est beaucoup plus gênant, comme si Dieu, en effet, elle parle, elle, de son bien-aimé. Ce n'est pas un Dieu, bien sûr, le Dieu père barbu, etc. C'est quand elle le voit, quand il s'offre à elle dans ses visions, et elle a eu des révélations très jeunes et des unions divines assez jeunes aussi, elle en parle, il se montre à elle comme un homme magnifique, avec un visage resplendissant. Bien sûr, on ne peut pas dire plus de l'ineffable, mais un visage resplendissant. Et il se montre à elle comme un homme viril, beau et doux. Et cet homme qui est son bien-aimé, qui est le Christ, mais qui est aussi figure d'homme, puisque si on est chrétien, un des premiers dogmes, c'est l'incarnation. Donc c'est logique, j'allais dire. Et donc cet homme, eh bien, il lui dit des mots magnifiques, des paroles à la fois fermes et enflammées, parce qu'il lui dit aussi qu'elle aura un destin difficile, très difficile. Mais il la prend dans ses bras et il y a échange de caresses, de baisers, et elle dit... comme les amants ont l'habitude, et ils se tiennent, ils sont l'un contre l'autre, cœur à cœur, bouche contre bouche. Bon, alors, d'où date la honte? Qui a décidé un jour, ça je fais la question, vous savez, comme le roi est nu, hein, du conte d'Andersen, qui a décrété un jour, alors si on peut savoir, hein, je vais déjà dire Saint-Augustin, mais enfin Saint-Paul, etc., des hommes comme par hasard, mais qui a décrété un jour que l'amour, enfin le fameux péché de chair, si on sait que c'est Saint-Augustin qui a stigmatisé totalement la sexualité, le péché de chair, et après tout le monde a continué. Qui a décidé que l'amour d'un homme et d'une femme était empêché le chemin du ciel? Et depuis, des siècles après, on continue quand même de vivre sur ce que j'appelle des sortes de stéréotypes ou des conventions qu'on ne remet pas en question. Et les béguines, elles ne menaient pas, encore une fois, une vie de dévergondée. Je pense qu'elles avaient même une vie très sage. Mais une femme, une grande dame comme Edwige, je pense qu'elle a, elle a eu connaissance de l'amour. Je pense, moi je ressens qu'elle a aimé un homme, et vraiment heureusement pour elle. Et dans ses poèmes, ou dans certains passages de ses visions, mais dans ses poèmes en particulier, moi je ressens qu'elle chante à la fois le bien-aimé au sens le Christ, le bien-aimé divin, et pourquoi pas un homme qu'elle aime. Et alors là, moi, je pose la question, mais après, vous, vous aurez vos questions et vos objections. Où est le péché là-dedans? Il me semble qu'il n'y a pas scission et séparation. Une femme de grand amour, une âme ardente comme Edwige, aime d'un même amour le Christ et l'homme si elle rencontre cet homme aimé. Voilà, il n'y a pas de séparation possible. Donc ça peut nous troubler parce que, également, donc ces femmes de, très ardentes comme une Thérèse d'Avila, qui elle a été religieuse, mais elle parle aussi de, pas tellement d'union, elle parle de ce fort désir, de ce haut désir aussi du bien-aimé. Mais lorsqu'elle parle d'extase ou de rencontre, d'union, c'est toujours un peu des métaphores hein, qu'on trouve chez toutes les mystiques. C'est le séraphin, c'est la flèche d'or, c'est etc. Ou alors elle parle d'elle en tant que c'est une, mon âme qui... Bon, mon âme, là, chez Edwige, je ne vais pas dire qu'elle est dépourvue d'âme, mais chez Edwige, c'est le corps entier, c'est l'être entier plutôt, qui vit cette union indicible. Donc, on ne peut pas rationaliser pour dire « Ah, est-ce que c'était une union charnelle, etc. véritable ?» parce que ça se passe dans une autre dimension de l'être. Mais elle parle de « comme le cantique des cantiques ». Elle est totalement imprégnée du cantique des cantiques. Comme le cantique des cantiques, elle parle ce qu'elle dit, ce grand chant d'amour qu'elle nous donne. À la fois, c'est la nostalgie, en effet, de l'âme qui recherche son Seigneur, donc qui part à sa poursuite. Mais c'est aussi, comme le Cantique des Cantiques nous le montre, c'est aussi la quête éperdue et sans fin, avec quelques pauses et quelques oasis, et une grande célébration de l'un et de l'autre. C'est aussi le bien-aimé, la bien-aimée, qui se cherchent, qui parfois s'unissent et ensuite disparaissent. Donc, vous savez, moi, il y a une expression de Dante que j'aime beaucoup, c'est la même époque. Quand il dit, c'est dans la Vita Nova, quand il dit tous les poèmes, tout ce qu'il veut écrire, c'est pour énamourer les gens. Alors, je ne sais pas si ce terme est encore bien utilisé, c'est un beau mot, énamourer, rendre amoureux les gens, énamourer. Moi, je trouve que ce qui fait le prix d'une œuvre, alors que ce soit les poèmes d'Edwige ou un film ou une musique, c'est de vous rendre amoureux. C'est ça, la grande... de vous enflammer. Je trouve qu'on est tellement, mais tiède ou refroidi ou prudent, où on se protège de tout et on veut guérir de tout. Mais quelle horreur! Bon, une femme comme Edwige vous donne une envie folle de vivre, parce que, bien sûr, la vie, c'est comme les films italiens, les grands films italiens, la vie est pénible, terrible, difficile, bien sûr, il y a des guerres, des crimes, la souffrance, on connaît nos épreuves, et qui ne meurt pas, qui n'est pas malade, on connaît tout ça, mais c'est en même temps magnifique de vivre, et de désirer encore vivre, et de traverser la vie avec ses abîmes et ses beautés, voilà. Donc ça, voilà la voie glorieuse aussi. C'est pas se protéger. Non, non, c'est être sous le vent. C'est être sous le vent.
Alors, si je traduis bien votre pensée, vous dites, avant de s'éprendre, il faut se déprendre. Et Edwige dit, quiconque veut aimer en vérité, qu'il ne garde rien pour lui. Effectivement, le corollaire du dénuement, ça devient de la solitude. Peut-être pas au sens bouddhique de détachement du terme, mais...
Non, on n'est pas dans le bouddhisme.
Mais un tête-à-tête, une intimité, effectivement, avec l'amour. Alors, qu'est-ce que la solitude habitée d'Edwige, selon vous ? Vous en avez déjà un petit peu parlé.
Mais c'est très, très important de reprendre, en effet... moi, je dis ça, qui veut s'éprendre, il doit d'abord se déprendre. C'est-à-dire que cet amour-là... n'est pas simple. Cet amour fou n'est pas simple. Ce n'est pas simplement un caprice, un engouement passager. Ce n'est pas un sentiment qui va passer, un sentiment capricieux. C'est en effet l'être entier qui est embrasé. Hein? Et là, il faut reconnaître, c'est... je reviens, et là, non pas pour le critiquer ou lui lancer des petites piques, mais saint Augustin, lorsqu'il dit cette phrase « Aime et fais ce que tu veux », c'est pas du tout un conseil facile. C'est la chose la plus difficile qui soit. Lorsqu'il dit la grande clé, c'est d'aimer, de devenir amour, et après, mais le reste, mais n'importe pas du tout. C'est ce qu'elle dit à sa façon. La voie, encore une fois, la voie royale, c'est cet amour unique et fou, l'unique nécessaire dont parlera Thérèse d'Avila, mais ça veut dire que l'on renonce à tout le reste, à toutes nos gratifications, comme on dirait nos jours, toutes nos possessions, toutes les facilités de l'existence. Donc c'est une voie absolument radicale. Cet amour éperdu, ce conquérir l'amour qu'elle ne cesse de chanter, cette conquête de l'amour lointain qui toujours s'échappe et échappe et la fuit, mais parfois revient vers elle... C'est une voie absolument escarpée. Et là, surtout, d'où, moi je dis plutôt dans ce cas et seulement, mais c'est une grande solitude, parce que, eh bien, il y a peu de personnes sur le chemin. On rencontre peu de voyageurs, peu de pèlerins sur ce chemin-là. La plupart, et c'est comme à l'époque contemporaine, je veux, alors pour rester dans une thématique pas très mystique, mais enfin quand même liée à l'amour, je veux rencontrer le grand amour, mais je veux aussi être bien tranquille. Je veux vivre l'intensité de la passion, mais je veux quand même la sécurité, on va construire un couple et un foyer, etc. Non, non. Où on désire la sécurité, où on désire la liberté. Si je vis l'intensité de la passion, je ne vivrai pas la belle patience d'un couple d'une longue durée. Non. Alors, notre côté en compromission, non. Sur le plan spirituel, et ça, bon, Jésus n'arrête pas de le dire, hein, sur le plan spirituel, il n'y a aucune compromission possible. Il n'y a aucune négociation possible, pour reprendre des termes actuels. Alors, c'est possible sur un plan temporel, politique, etc., économique. Sur le plan spirituel, c'est intransigeant, hein, que votre oui soit oui. Il n'y a pas de tiédeur. Donc, cette voie folle et perdue de la conquête de l'amour... qui s'avère impossible, et après, donc, c'est pour ça qu'elle s'abandonne totalement à cet amour qu'elle ne peut pas conquérir, ni prendre, ni garder. Cette voie est une voie extrêmement escarpée et rude, qui mobilise toutes ses forces et sa vie, et qui l'oblige de renoncer à tout, et en particulier, en effet, à toute sécurité possible, et peut-être toute affection. Et elle est à la fois, elle paraît inquiétante par rapport à la plupart, même ses compagnes sont beaucoup plus tièdes qu'elle, elle essaie de les encourager sur la voie, mais surtout elle est en butte à ses contemporains, et la plupart des contemporains où ce sont des gentils dévots, des bons dévots, et c'est pas du tout dépréciatif de ma part, ce sont des fidèles et des dévots qui suivent la religion et qui se demandent, ces femmes un petit peu, on dirait allumées de nos jours, ces femmes un peu prophétiques, la parole exaltée, bon, donc elle a affaire à cela, aux religieux qui sont très suspicieux parce qu'elle a l'air de leur dérober, de grignoter sur leur monopole et de leur dérober la connaissance et la parole, l'autorité spirituelle. Et puis, elle a affaire aussi à ceux, bah, le gros de la troupe, j'allais dire, qui n'en ont rien à faire, ni de la mystique, ni du mysticisme, ni de l'amour, ni etc. Et ceux qu'elle appelle soit les étrangers, au sens ceux qui méconnaissent l'amour et même le bafouent, hein, donc les étrangers à l'amour, le profane au sens le plus épais du terme, hein, soit elle les appelle, moi j'aime bien son expression, elle les appelle les rampants. Et à ses compagnes, elle dit toujours, ne t'abaisse pas à la vie rampante. Puisqu'elle, c'est une femme d'élévation, sans arrêt, elle parle toujours, il y a une topographie sacrée dans ses écrits, et elle dit, ben voilà, on est dans la vallée, et puis on vise les cimes. Elle dit, mais souvent, on retombe dans la vallée. Hein. Mais le pire n'est pas de retomber dans la vallée, le pire, c'est la morne plaine. Alors, je ne sais pas, dans son plat pays, si elle savait, elle est en connaissance de cause, mais le fameux plat pays. Mais... pour elle, la médiocrité et la vie du mortel, en effet, d'un mortel qui se contente de sa condition mortelle, c'est en effet la vie rampante, c'est la plaine. Mais sinon, dès qu'on s'engage, dès qu'on devient pèlerin spirituel, nécessairement, on navigue d'abîmes en vallée, de gouffres en cime. Oui. Et là, en effet, c'est une vie passionnée, passionnante, mais totalement exposée. Et donc, qui choisit cette voie ? En effet, se retrouve très seul, incompris, moqué, raillé, très seul. C'est la voix des siècles plus tard de Don Quichotte. Hein, il se trouve bon, et donc c'est aussi la voix qu'ont connue, l'expérience, une station que connaissent tous les mystiques, que ce soit les philosophes, alors j'ai cité Plotin, mais que connaissent tous les mystiques de toutes les traditions, hein, je pense à Halaj, donc dans la mystique soufie, et ils connaissent cet esseulement ardent, c'est-à-dire à un moment, ils sont totalement seuls, ils n'ont plus personne à qui parler, ils n'ont plus d'interlocuteur sur Terre, puisque les autres ne s'intéressent pas aux mêmes choses qu'eux, et n'ont pas les mêmes expériences, et devant eux, il n'y a plus que l'absolu ou le mystérieux bien-aimé qui échappe en même temps. Donc c'est absolument terrible. C'est intenable, mais ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est aussi le point de non-retour. Donc ça, elle l'a vécu, Edwige. Elle parle très souvent de cet esseulement. Et c'est tragique. Mais en même temps, c'est le plus haut point qu'on peut atteindre. C'est pour ça que je pense peu, que ce soit au XIIIe siècle ou au XXIe siècle, veulent s'y engager, parce qu'ils sentent obscurément que en s'avançant sur la voie spirituelle, enfin, le pèlerinage spirituel qui va vers l'éveil de conscience et la grande liberté, plus j'accède à ma liberté et plus je serai terriblement seule. Et pour être un peu entourée, la chaude communauté, ben, vaut mieux rester dans la chaude communauté des mortels. C'est pour ça que les mystiques ne sont pas très communs, pas très fréquents. Et c'est, bien sûr, à la grande liberté correspond la solitude, et à la liberté, à l'éveil spirituel correspond les seulements. Ça, c'est une sorte de loi, moi, que je peux vérifier par rapport aux textes que je lis, à divers personnages, encore une fois, de diverses religions. Et donc, on est seul, on est divinisé, mais on est terriblement et magnifiquement seul.
Ouais. Une belle définition. La survenue de Dieu dans l'esprit constitue un privilège d'en haut, dit saint Paul. Donc, il emploie le
vous,
terme
vous me
de...
répétez, parce que je ne fréquente pas suffisamment saint Paul.
La survenue de Dieu dans l'esprit constitue un privilège d'en haut. Donc, il emploie le terme de privilège, et donc c'est profondément injuste pour ceux qui ne l'ont pas.
Oui, alors, bon, là, je n'aurais pas la compétence de débattre, parce que là, c'est tout le problème de la grâce, etc. Donc, pendant des siècles, il y a eu les controverses, etc. Moi, je réponds par rapport à la Béguine. Elle dit en effet que très jeune, elle devait avoir 8 ans, 9 ans, c'est en effet lui, l'amour, le bien-aimé, qui s'est présenté à elle. Mais, enfin, à la fois, moi, je ne comprends pas trop, enfin, je ne comprends pas trop, parce que je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas la possibilité, là. Moi, je me sens beaucoup plus, je comprends plus la phrase du Christ qui dit « Tous sont appelés, mais il y a peu d'élus ». Je ne sais pas si ça correspond à la même chose, je ne pense pas. Parce que moi, je ressens que, au fond de chacun, il y a, même si on l'a bien enfoui, bien bétonné, etc., au fond de chacun, il y a, sans parler de, d'aspiration à la sainteté, hein, mais il y a au moins ce qu'on appelle le désir d'éternité. Je sens qu'il y a quelque chose qui demande à, non pas survivre simplement, et pas durer comme on le dit de nos jours, mais ce désir d'éternité, de ne pas être simplement une créature mortelle, passante, précaire, etc. Et donc ça va de pair à un désir d'explorer, et un désir de nouveau, un désir de découverte, un désir de risquer, de s'aventurer, et un désir d'élévation, nécessairement. Voilà. Donc, tous sont appelés, je pense que, oui, nous tous sont appelés. Mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent tenter l'aventure. Comme je l'ai dit précédemment, beaucoup veulent rester au chaud. Donc, de fait, est-ce que j'ai envie d'être ce chevalier spirituel ou ce pèlerin ou cette béguine, ou est-ce que je préfère m'identifier à la chaude communauté des mortels et donc faire en sorte surtout que la planète dure, que ça dure et que mon existence soit prolongée de 100 ans, de 300 ans, etc. On est complètement là-dedans actuellement. On n'a qu'une perspective horizontale temporelle. Alors, à la fois, je pense que pour des femmes d'envergure comme Edwige, des grandes mystiques, en effet, elle a eu ce privilège d'avoir reçu des faveurs, des grâces incontestables et des dons incontestables aussi de poétesse. Bon. Mais il fallait aussi qu'elle fasse fructifier ses dons. Mais elle le dit sans arrêt aussi, elle dit qu'elle a elle a reçu ses faveurs, mais en même temps, son fameux bien-aimé lui a prédit sa destinée. Il lui a dit que toute ta vie, il lui dit, autant que je me souvienne, sont pas ces mots qui sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus forts. Il lui dit, mais voilà, dans ta vie, plus tu iras, plus tu subiras des injures et des injustices, les gens se détourneront de toi, hein, le fameux et seulement, les gens se détourneront de toi, tu seras persécuté parce que justement, sa voix est singulière. La question, c'est ça, je pense que si chacun, homme ou femme, et de nous, chacun va vers sa singularité, remplit sa voix singulière, nécessairement, oui, il va affronter le mépris ou la vindicte des autres, bien sûr. Les gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, disait le fameux Brassens, quelque peu anarchique et très troubadour aussi. Il y a cette question-là. C'est troublant. Je fais toujours aussi quand même un va-et-vient, parce que nous sommes aussi au XXIe siècle. Hein, nous ne sommes pas qu'au XIIIe siècle, même si cette femme est assez intemporelle. Mais moi, quelque chose qui me chagrine le plus dans notre société, c'est cette volonté, presque c'est pas une conspiration, mais une volonté toujours de dissoudre l'individu, sous prétexte on dit individualisme. Non, l'individualisme n'est pas l'égoïsme. Et toujours de parler en termes de groupe, de génération, de masse, de parti, etc. Non, ce qui est magnifique, et ça c'est notre tradition occidentale, contrairement justement à une tradition orientale où c'est le peuple, la famille, la religion, la patrie, etc. La tradition occidentale, à la fois grecque et chrétienne, c'est l'individu repose sur la notion de personne. Et je ne sais pas si nous apprécions de nos jours et nous avons envie d'être une personne unique et irremplaçable. Il faut s'en donner les moyens, comme on dit. Mais nous sommes des êtres uniques et irremplaçables. Bon, alors après que nous fassions partie d'un pays, d'un groupe, etc., c'est autre chose. Mais nous sommes surtout des êtres singuliers, non pareils. Et ça, c'est une haute exigence. C'est pas un privilège. De fait, nous sommes des êtres en puissance, uniques et irremplaçables. Mais est-ce que j'ai désir d'accomplir ma singularité? Et à ce moment-là, ça demande une exigence. C'est une grande exigence. Et ça peut être aussi une grande solitude. Donc elle nous rappelle cette singularité. Je pense que la phrase de saint Paul aussi peut-être est ce privilège-là.
Et alors justement, dans cette période troublée que nous traversons, Dieu sait si elle l'est, est-ce que vous pensez que le béguinage puisse renaître ? Et sous quelle forme ? Est-ce que ça peut couver sous la cendre ?
Alors ça existe, autant que je puisse savoir, même j'avais fait un reportage, un petit béguinage qui existe près de Louvain, en Belgique, ça existe, mais très étonnamment, ça a été interprété différemment, puisque vous avez compris que ces béguinages, qui étaient au début, c'était pas du tout clôturé de hauts murs, hein, c'était des petites maisons qui entouraient un jardin, et les petites maisons étaient toutes, c'était égalitaire, hein, et c'est pas une vie en communauté, vous avez bien compris, là aussi, c'est très nouveau, hein, parce que c'est à la fois je vis seule et je vis, mais je suis avec. Hein. Mais ce n'est pas une vie de communauté. Donc chacune vit dans sa maison, mais peut partager aussi bien un repas que la prière, qu'une méditation, une promenade avec une autre amie béguine. Bon. Et alors, ce sont des femmes jeunes. C'est un mouvement bouillonnant, printanier, passionné, fervent. Bon. Et alors, les béguinages... dont j'ai entendu parler, celui que je connais surtout. Alors, ceux dont j'ai entendu parler que je ne connais pas, c'est surtout en Allemagne. Cette notion de béguinage a été tout à fait reprise, voire revendiquée par les féministes, mais des féministes même un peu pures et dures d'Allemagne, et qui, pour en faire des sortes de... peut-être pas de bastion, mais d'enclos féminin, les femmes émancipées, vivre ensemble et peut-être un peu contre les hommes. Bon. Alors que chez les béguines, et en particulier chez Edwige, c'est pas du tout contre les hommes. Bon. Et puisqu'elle frayait avec la population aussi. Et elle a des amis hommes, comme on le sait. Mais les béguinages, surtout dont on parle pas mal, c'est, comme on dit, non pas en fin de vie, mais pour le troisième âge, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'âge de la retraite, enfin qui n'ont plus d'activité, qui ne veulent pas du tout vivre de façon conventionnelle, soit bon, ben, on va au soleil, ou on a notre maison et on vit à deux, si ils ont la chance encore d'être deux, et puis on voit nos enfants, nos petits-enfants dans notre maison de famille, bon, ou alors, plus triste, mais c'est aussi une éventualité, en effet, si on est malade, ou etc. Ou alors on entre en maison de retraite et là aussi c'est tout. Il n'y a pas 50 possibilités de nos jours, il faut le reconnaître. Bon. Et donc ce sont des personnes qui n'ont plus d'activité dans la cité et qui décident, et souvent sont les enfants et les petits-enfants qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents que les aïeuls, enfin les plus âgés aient l'air de prendre des chemins nouveaux, et qui décident justement de fonder un béguinage avec des petites maisons. Et là, donc dans une maison, il peut y avoir un couple, et dans une autre maison, il peut y avoir une veuve, par exemple. Et bien sûr, ce béguinage ne peut tenir, enfin celui que je connais, le petit béguinage de Louvain, qui existe depuis au moins, je pense, 15 ans, ce béguinage ne peut tenir que s'il y a, bien sûr, une dimension transcendante. Hein, si c'est uniquement on est ensemble pour se soutenir, bon, il y aura de nouveau des problèmes de groupe, de hiérarchie, de conflit. Alors que là, bien sûr, il y a une dimension spirituelle chrétienne, donc il y a méditation, prière, messe, etc. Et ça avait l'air de bien d'être joyeux, joyeux et chaleureux. Mais en même temps, c'est une interprétation tout à fait différente, puisqu'encore une fois, c'est pas la fin de vie ou les dernières années. Là, c'est les béguines, c'est un départ, c'est un début, c'est un commencement. Elle est vraiment sous le signe du printemps, Edwige. Donc voilà les béguinages que. Mais souvent, alors ça prend un peu la forme aussi quand on dit, vous savez, à un moment, il y a l'époque, on dit les villages d'amis, etc. Alors ça, c'est aussi un vœu pieux, parce que là, ça ne regroupe pas spécialement des amis, hein. C'est des personnes qui sont capables, désireuses aussi de choisir quelque chose de novateur. Donc je trouve ça, même si ce n'est pas comme les béguinages du XIIIe siècle, je trouve ça vraiment très estimable. Et moi, ça me plaît beaucoup qu'il y ait cette recherche d'une autre, toujours pareil, d'être en dehors des conventions. Hein, c'est ça la liberté, de pas dire ah on a voilà à tel âge voilà je prends ma retraite et je n'ai que le choix que hein, le modèle familial et puis les petits enfants et je tricote etc. Soit oui on n'est que dans des stéréotypes, on est conditionné du début à la fin de notre vie. Donc le chemin c'est déjà de tout de s'ébrouer beaucoup pour faire partir tout ça. Alors soit la voie familiale et puis tous les enfants, les petits enfants qui vous disent continuez. Soit le modèle, en effet, de la société civile, des maisons de retraite, plus ou moins haut de gamme, où on attend de mourir. Bon, et c'est triste aussi. Alors que il y a toujours la notion de... on continue de cheminer, hein, dans l'esprit, dans la culture, on continue. Et puis, cette dimension très importante, donc il y a cette notion transcendante qui relie, bien sûr, c'est la plus importante, mais surtout, ce soutien, ce compagnonnage sur le chemin. Hein. C'est pas une communauté monastique, mais ils sont à côté l'un de l'autre. Donc ça, c'est un beau modèle.
Voilà. Je crois que, puisque nous voyons que les béguines perdurent dans notre siècle...
Je ne sais pas si elles perdurent. Moi, je trouve que nous manquons beaucoup, comme femmes, je trouve que nous manquons beaucoup de femmes prophétesses. Nous manquons beaucoup de paroles féminines. Beaucoup. Beaucoup. Nous avons beaucoup de clones, des femmes qui clonent, qui singent le discours masculin, mais nous avons peu de témoignages de paroles féminines. Ouais. Et aussi peu de femmes qui témoignent sur le plan spirituel. Le spirituel n'est pas le monopole du religieux, j'insiste. Ouais. Mais ça, c'est encore toute la société. Moi, je le vois. Si on fait appel à quelqu'un, une femme, pour parler de telle et telle chose, de spiritualité, nécessairement, c'est une religieuse. Hein. C'est pour ça que Hildegarde de Bingen, elle, on peut l'étudier et on la valoriser parce qu'elle fut, elle est religieuse et bénédictine. Puis toutes les autres, hein, Catherine de Sienne et autres, et des femmes admirables hein, et prophétesses. Mais une femme laïque... Bon, qu'elle se contente de parler de psychologie, ou etc., mais pas de spiritualité, elle n'est pas crédible. C'est ça la grande révolution, parce que Edwige donne quand même, ouvre la voie quand même, elle montre l'importance que les laïcs, donc là, hommes et femmes, elle est femme, mais l'importance que les laïcs ont dans l'histoire de l'Église. Et encore une fois, c'est drôle, parce que de nos jours, donc on parle de laïcité, quand on parle des laïcs de nos jours, c'est plutôt ceux qui sont contre la religion, j'exagère à peine, enfin, qui se disent pas athées, mais attention, pas de signes, pas etc. Donc là, on est dans la laïcité, laïcisme, alors qu'au contraire, moi, il me semble que sur un plan de religion, de la religion et du christianisme, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les laïcs, et pas spécialement les prélats, ce sont les laïcs qui portent vraiment le message du Christ. Et qui témoignent. Mais ils sont dans l'ombre, ils ne sont pas très bien traités. Mais je pense que ce sont les laïcs, hommes et femmes, qui font le gros du travail.
Ah oui. Ouais. Donc d'où l'importance de faire connaître Edwige van Weert.
Et je pense en que, particulier, je aussi pense pour que... la dignité, la fierté. La fierté. Vous savez, c'est pour ça que je voulais vraiment l'appeler le sous-titre et la voix glorieuse. Parce que pensez un peu à des figures de femmes saintes. Les uns les autres, pensez à des figures de femmes saintes dans le christianisme. Immanquablement, hein, je ne fais pas de la télépathie, immanquablement, vous aurez une figure de femme miséreuse ou sacrifiée ou qui se penche sur les douleurs du monde. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, c'est fou, toutes les saintes du christianisme, elles sont toutes malades, mortifiées, malheureuses, où elles soignent la lèpre et le choléra. C'est troublant. Il n'y a pas des saintes qui sont belles, prophétesses, intelligentes, qui parlent, non ? Catherine de Sienne était de celle-là. Okay. Voilà, aussi. Donc, c'est ça, c'est aussi un modèle de sainteté féminine qui n'est pas mortifiée, qui n'est pas... le côté un peu sinistre. Oui, mais nous... Non, mais c'est à nous de nous interroger aussi. Qu'est-ce que la sainteté, au sens... Qu'est-ce que c'est la sainteté ?
Alors peut-être qu'on va en rester sur cette belle image de,
oui,
de beauté.
Une femme joyeuse, d'une femme joyeuse.
De beauté et de joie.
Voilà. C'est bien, ne partez pas de toute façon. Moi, je signe volontiers si vous voulez. Voilà. Hein, donc, on peut continuer à parler tout en signant. Merci à vous.